Au festival du film d'histoire au festival de Pessac avec, j'espère prononcer aussi bien qu'en micro, avec Anya Sepanska, ça va, ça a prouvé, et Sylvie Lindeberg. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Alors, j'aimerais parler avec vous, aborder, puisque vous êtes les deux maîtres de conférence, si je ne me trompe pas, à la Sorbonne.
C'est moi.
Voilà. Et vous, vous êtes historienne, spécialisée en particulier autour de la période de la Deuxième Guerre mondiale. Et vous avez travaillé sur à la fois les images, le cinéma, les archives et la mémoire. La mémoire, justement, à une époque, c'était l'écriture. Avec le cinéma, ça a changé. Ici, il y a énormément de documentaires et d'images d'archives qui sont montrées. Est-ce que ça reste encore très important avec une société qui est dans le consumérisme, dans l'accès facile avec Internet? Est-ce que ces images ont encore beaucoup d'engouement auprès du public?
Je crois que ces images connaissent même un engouement croissant. Les images d'archives sont évidemment des sources pour l'histoire, mais en même temps un matériau pour une écriture de l'histoire, et notamment l'écriture cinématographique de l'histoire. Et on peut remarquer que dans les productions documentaires, que ce soit du cinéma de création ou des produits, des programmes télévisés, les archives sont de plus en plus utilisées, à la fois comme support à un discours, mais aussi dans une vision plus analytique où les images elles-mêmes sont des sources historiques qui sont prises en charge par les cinéastes qui inventent des formes à partir de ces images.
Anya Sepanska, vous avez travaillé par exemple sur l'époque post-Solidarność, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, comme disent les francophones. Donc ça a été très important pour travailler sur le post-mouvement des ouvriers, la libération du communisme.
Oui, j'ai commencé à travailler d'abord sur les images produites à l'époque communiste, surtout les années 70, donc à la fois des images produites par le régime, et aussi le travail des cinéastes qui essayent de montrer cette réalité un peu différemment. Et en effet, l'un de mes objets de recherche, c'était de voir comment aujourd'hui on écrit cette histoire communiste à partir de ces images. Donc, quelles images prennent plus de place que d'autres, quelles images sont oubliées, puis ressurgissent tout à coup, surtout dans en situation actuelle où ces images sont souvent instrumentalisées pour écrire une certaine vision de la période communiste. Mais pour revenir peut-être sur l'engouement, c'était en effet un des points de départ du livre, d'essayer de comprendre pourquoi on voyait de plus en plus d'images d'archives dans les productions documentaires. Est-ce que ça venait des diffuseurs, des producteurs, des réalisateurs? Essayer de voir comment ces vagues mémorielles et ce goût pour l'histoire étaient exploités dans la production audiovisuelle contemporaine.
Et pour revenir, là vous avez parlé de la Pologne par rapport à aussi votre premier long métrage de documentaire. Vous avez travaillé, si je ne me trompe pas, pour nous, en Tchéquie. Est-ce qu'on peut... C'est juste ? Non ? Vous n'avez jamais été...
Ah oui, j'ai enseigné.
Ah,
oui,
voilà.
J'ai enseigné à Pologne.
Voilà, quand même.
Oui, oui, tout à fait. Vous êtes très bien renseigné. Bien
voilà.
Vous voyez.
Ah, oui, vous avez oublié. Attendez, je vais vous donner votre CV d'ici
oui,
peu.
Je vois. Par
rapport à des pays qui ont connu la chape de plomb qui était liée au communisme et à un gouvernement quand même qui était policé, qui surveillait tous les mouvements, les idées et même les expressions des gens, est-ce que vous avez vu une grande incidence justement du changement après la chute du communisme? Est-ce que c'était flagrant tout de suite ou est-ce que les gens étaient encore conditionnés dans les productions cinématographiques?
C'est difficile à dire parce que les années 90, tout a été bouleversé, toute la production cinématographique a été bouleversée, donc la manière dont on produisait les films.
Le financement aussi.
Le financement. Le cinéma n'était plus un cinéma d'État, mm-hmm. Donc il a fallu toute la décennie des années 90 pour réorganiser les structures de production dans un système très capitaliste et très libéral. Donc ça a pris du temps pour que les personnes qui faisaient du cinéma d'une certaine manière, avec un commanditaire, avec une télévision d'État, se retrouvent dans cette nouvelle réalité. Et puis le deuxième problème, ça a été la gestion de ces fonds d'archives aussi, qui appartenaient à des institutions d'État et qui, certaines ont été privatisées, certaines... La propriété de ces images n'était plus vraiment claire. Et ce sont tous ces processus de réappropriation que nous avons aussi voulu étudier dans le livre à l'échelle européenne, et évidemment en partant du cas français, on est parti du point de vue français, et proposer la question de la propriété des images d'archives dans différents contextes politiques.
Vous voulez ajouter quelque chose?
Je voulais peut-être ajouter que non seulement il y a un engouement pour les images, mais une redécouverte permanente de nouvelles sources d'images, et notamment, par exemple, on le voit très bien dans le cadre de ce festival, du cinéma amateur. Et ces images-là sont sans cesse exhumées, font l'objet de films qui parfois se poursuivent par des travaux de recherche historique. Et de ce point de vue-là, c'est un océan qui s'ouvre devant nous, avec des films qui sont plus fragiles, films de famille, films amateurs, notamment filmés pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on voit progressivement émerger cette partie inconnue, invisible, sans doute lancée par ce processus d'engouement qui fait que des documentalistes recherchistes vont exhumer ces images privées qui, en tout cas pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, refont assez logiquement surface aujourd'hui à partir des nouvelles générations qui vident les greniers, qui découvrent des albums de famille et qui par ailleurs trouvent des films amateurs qui sont véritablement des sources nouvelles qui nous donnent une approche plus sensible de l'histoire et qui parfois découvrent des pans totalement inconnus des événements.
Pour prolonger ce que vous disiez notamment sur les pays du bloc socialiste, ce qui est intéressant aujourd'hui en 2016-2017, c'est qu'on reprend parfois les mêmes images, mais que les nouvelles générations les interrogent complètement différemment. Et par exemple, pour Solidarité, c'est une histoire écrite en mettant au centre la figure de Lech Walesa, qui est l'icône de cette période-là. Et il y a un film récemment d'une jeune femme polonaise qui a revisité cette histoire en se demandant qui étaient les femmes qui étaient juste à côté de Lech Walesa pendant, et pourquoi on les a oubliées. Pourquoi autour de la table ronde, il n'y avait que des hommes, avec l'exception d'une ou deux femmes. Donc revisiter ces images, mais avec d'autres interrogations qui sont plus celles de Polonais de 2017.
Voilà. Ce que dit Ania, je prolongerai par l'entretien qu'on a fait avec la philosophe Marie-Josée Montzin, qui dans le livre explique que l'archive est un jugement de sens permanent qu'il faut interpréter et qui fait l'objet de nouvelles constructions de sens. On n'en a jamais fini avec l'image d'archive.
Ce que je comprends d'après vos propos, c'est que ça ouvre un petit peu une fenêtre sur des personnes oubliées auparavant. En tout cas, ça met la lumière sur, par exemple, des femmes, l'importance peut-être économique déjà des femmes qui ont été occultées pendant plusieurs décennies, c'est ça ?
Comprendre pourquoi une certaine histoire a été écrite et est-ce qu'en réutilisant les mêmes sources, parce que souvent on parle des images inédites qu'on n'a jamais... Il y a celles-là qui sont en effet très intéressantes, des images qu'on ne connaît pas et qu'on découvre, mais il y a aussi des images qu'on connaît très bien mais qu'on interrogeait d'une certaine manière, et cela permet en effet de mettre en lumière des personnes qui ont été oubliées, parce que dans le cas des femmes par exemple, on essaie d'expliquer pourquoi ces femmes qui ont participé aux grèves de Gdańsk, pourquoi tout à coup au moment de la prise du pouvoir elles n'étaient plus là. Et elle l'explique parce qu'elles sont revenues à leur tâche et qu'elles ne voulaient pas prendre le pouvoir, en tout cas parce qu'elles ne se sentaient pas légitimes justement pour occuper des positions importantes. Et donc cela permet à partir de ces mêmes images d'essayer de comprendre des mécanismes aussi d'écriture de l'histoire et de prise de pouvoir qui sont passionnants.
Je pourrais prolonger cette réflexion à partir de la Seconde Guerre mondiale. On voit bien à quel point ces images d'archives, y compris les images d'archives officielles, on peut le révisiter à partir des personnes qui peuvent apparaître comme des personnages secondaires. C'est ce que j'ai fait pour la libération de Paris. Et tout d'un coup, on voit émerger ces gens de peu, ces personnes dont le nom n'est pas resté dans l'histoire, mais qui ont été enregistrées par la caméra, puisque cette particularité de l'image d'archive est un enregistrement mécanique capture des événements secondaires, des personnages en arrière-plan qui tout d'un coup vont réémerger par le travail d'interrogation et d'analyse des images. C'est ce que Michel de Certeau appelle les absents de l'histoire. Mais ces absents de l'histoire, ils sont parfois dans l'image.
Ils sont au moins présents dans ces images. Je rebondis sur vos propos de tout à l'heure, Sylvie Lindberg. Vous parliez des films qui sont peut-être plus amateurs, des films familiaux. Et là, peut-être, ça nous donne une ouverture anthropologique, sociologique, en plus de l'histoire. Quelque chose de plus spécifique, on découvre des éléments qu'on n'avait pas forcément dans la grande histoire.
Oui, mais il faut faut préciser que pour les périodes que je connais le mieux, les années 30, les années 40, les personnes qui filmaient étaient issues de la bourgeoisie aisée. Lorsqu'aujourd'hui, pour des documentaires sur la Seconde Guerre mondiale, on utilise les images amateurs, c'est vraiment un angle étroit. Certains d'entre eux, d'ailleurs, utilisaient des pellicules couleur en 16 mm. Et on a une vision passionnante des dignitaires nazis, des Allemands de la Wehrmacht pendant l'occupation en France. Mais il faut toujours recadrer ces images dans une perspective qui est celle d'un marché relativement limité, avec un point de vue qu'il faut toujours interroger et une vision qui est quand même capturée par l'élite sociale du moment.
C'est le cas aussi pour les pays socialistes. Et ce qui est intéressant, c'est comment ces images justement de famille qui ressortent aussi des greniers, elles croisent parfois une nouvelle historiographie de l'histoire communiste. Dans les années 90, on interrogeait beaucoup les événements politiques, les révoltes, les moments phares, 56, 70, 80. Le fait qu'on redécouvre des images de famille permet tout à coup de poser des questions. Mais ça voulait dire quoi, vivre au quotidien dans un appartement à l'époque socialiste? C'était quoi la vie matérielle, les habitudes, les meubles, les vêtements, la mode, le quotidien? Donc cela permet aussi de poser évidemment des questions d'historien, mais qui évidemment change notre regard sur cette période communiste, qui à la fois la politise, enfin d'abord la dépolitise, et puis mais pour la repolitiser évidemment à travers la question de qu'est-ce que ça voulait dire d'être un citoyen à cette époque-là.
Et toutes ces archives, on imagine qu'elles sont fragiles, vu qu'elles sont peut-être restées, comme vous disiez, dans des greniers, dans des conditions de conservation pas forcément adéquates. Donc tout est numérisé aujourd'hui ?
Non, loin de là. Il arrive que des familles qui précisément n'ont plus les appareils de lecture pour voir ces images les confient à des centres d'archives. Et effectivement, très souvent, ils font une donation et en échange de cette donation repartent avec des images numérisées, ce qui permet aussi au centre d'archives de les donner en consultation. Donc il y a une espèce d'économie d'échange autour de ces images qui font qu'une partie d'entre elles sont numérisées, les autres sont numérisées évidemment dans le cadre de production documentaire, mais il y a encore de très nombreuses images qui ne peuvent être consultées qu'à partir du moment où on a les appareils de lecture dans les centres de consultation. Et c'est évidemment les limites des images par rapport, comme le rappelle Agnès Manien dans notre livre, c'est que une image ne peut pas se lire directement. Il faut l'appareil de lecture, contrairement à un texte écrit qui peut difficilement directement être saisi par le lecteur.
Vous voulez dire quelque chose, Agnès ?
Peut-être rappeler aussi que contrairement à peut-être ce que beaucoup de gens pensent, le processus de numérisation ne permet pas de sauver et de rendre éternelles des images. La numérisation, évidemment, est beaucoup moins fiable, est beaucoup moins solide que la pellicule, finalement. Oui. Et que le fait de numériser une fois, ça ne suffit pas. Qu'il faut ensuite... C'est que nos disques durs, que nous croyons être des petites boîtes magiques qui gardent nos images de famille, au bout de 5 ans, il faut changer de support. Donc la numérisation n'est pas une solution pour la pérennité de ces images.
Oui, le numérique n'est pas un support de conservation, à telle enseigne que les films tournés aujourd'hui en numérique sont re-shootés pour être conservés sur pellicule argentique. On nous a longtemps vendu le numérique comme la solution à tous les problèmes et comme un support pérenne, c'est loin d'être le cas.
À l'instar de la musique, un peu.
Oui, le numérique est très bon pour la diffusion, pour la circulation et pour la communication et pour l'accès. Cela facilite l'accès, mais cela ne garantit pas du tout la pérennité de ces images. Et il faut le rappeler parce que c'est vrai qu'on n'en a pas souvent, on n'en a pas conscience.
Alors, Agnès, vous êtes née à Varsovia, où je vous rappelle votre CV, j'espère qu'il est juste, mais vous avez travaillé aux États-Unis, en Angleterre, c'est juste?
Oui.
Et au Brésil?
Ça va
long, voilà.
Et en Tchéquie, donc
j'avais... En Tchéquie, ça je m'en souvenais. Et donc avec toutes ces approches culturelles différentes, on sait qu'il y a quand même une incidence, ne serait-ce que dans le quotidien déjà, culturellement. Est-ce que, par rapport au travail que vous faites sur l'histoire du cinéma, l'esthétique, la mémoire, vous avez noté de grandes différences parmi les cultures mentionnées?
Dans l'approche, déjà?
Dans d'emblée, je vois une différence qui est que dans les pays où j'enseignais, et sans doute parce que dans ces pays on m'avait invité, donc c'était des gens qui s'intéressaient aux images d'archives, il y a moins de clivage entre les gens qui travaillent sur les archives audiovisuelles d'un côté et les historiens de l'autre. C'est-à-dire que les historiens, depuis longtemps, aux États-Unis, en Angleterre, pris en charge dans des départements qui sont plus pluridisciplinaires, cette source que sont les images audiovisuelles. Dans le cas du Brésil, on a des pays qui se trouvent à la fois dans des situations de conservation extrêmement périlleuses, conscients de la fragilité de ces supports, et en même temps, avec, pour ce qui concerne les collègues, une véritable engouement, une véritable passion pour le cinéma, une volonté de conserver ces images qui sont la mémoire de leur pays, avec tout ce qu'elles portent de traces de la situation coloniale, avec tous ces programmes qui se développent au Brésil, justement autour du film de famille, qui sont des sources qui permettent de relire d'une manière un peu plus sensible l'histoire très complexe de ce pays. Et là, on a véritablement un travail qui est fait. J'étais en Corée l'année dernière, et là aussi, les historiens coréens ont pris conscience qu'il y avait un patrimoine considérable sur l'histoire de la Corée qui se trouvait aux États-Unis, en France ailleurs.
Dans les diasporas.
Et puis dans les centres d'archives, et on fait cet effort de ramener dans leur pays ces archives, d'aller les acheter, de passer des partenariats avec l'INA, avec la NARA de Washington, et on demandait à des historiens du film de les aider à interpréter ces sources. Donc il y a des démarches au niveau de la planète aujourd'hui autour de ces images d'archives, et nous sommes très dotés en France, mais il y a encore un peu ce clivage entre les historiens qui certes intègrent de plus en plus les images audiovisuelles, mais sont encore un peu timorés. Ils font des films, ils sont auteurs, conseillers historiques, mais la place des images d'archives dans l'enseignement et dans la recherche des historiens est peut-être encore un peu limitée par rapport à ces pays.
Là, vous parlez du niveau universitaire.
Oui.
Voilà. Oui. Parce que, pour le revenir au festival de Pessac, il y a énormément de projections scolaires qui sont préparées en amont avec des dossiers pédagogiques très ludiques et en même temps didactiques. Et puis, par exemple, j'avoue, moi, que je ne connaissais pas Anne Morgan, l'américaine, qui a lancé le mouvement des bénévoles volontaires pour venir en aide à la France pendant la Grande Guerre. Et grâce à des documentaires qui sont présentés ici, on découvre des pans d'histoire totalement méconnus, en tout cas du grand public.
Oui, alors là, on est plus dans la transmission d'un savoir sur l'histoire qui passe par le cinéma. Et là, moi, je parlais plutôt de travaux d'histoire qui se faisaient à partir de ces sources qui sont les images audiovisuelles. Mais tout ça, évidemment, converge dans le fait que les travaux des historiens nourrissent ces films qui peuvent atteindre un public plus large et véritablement être des outils d'une immense valeur pour transmettre l'événement, pour faire penser l'histoire et pour construire sa mémoire.
Ajouter quelque chose ?
Non. Bon, et pour venir à ce que vous faites actuellement, est-ce que vous êtes sur un projet ? Vous pouvez nous en dire quelque chose ?
Alors moi je continue sur la Pologne, cette fois-ci dans une autre période. Je travaille sur un cinéaste polonais et juif qui s'appelle Alexander Ford, qui a commencé à travailler dans les années 20 ou 30 en Pologne, et qui traverse un peu l'histoire de la Pologne jusque dans les années 80, et qui me permet de retraverser l'histoire des relations polono-juives, également l'histoire de la Seconde Guerre mondiale jusque la crise antisémite de 68, à travers à la fois des films de fiction et des films documentaires. Et ce qui est passionnant avec ce personnage, c'est qu'il est aussi une sorte de mosaïque qui a laissé des traces dans le monde entier, dans les archives du monde entier. Il a immigré en 68, et donc je suis
en
un
Israël.
Peu à la recherche. Non, pas en Israël. Israël aurait voulu qu'il immigre en Israël. Il est parti au Danemark. Il a fini sa vie en Floride. Il s'est suicidé à la fin de sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à travers ses films, il a fait des films notamment en langue yiddish. J'essaye de retraverser l'histoire polonaise et européenne à travers à la fois des films de fiction et des documentaires.
Pour l'instant, vous êtes au stade des recherches, vous voyagez beaucoup.
Des recherches, oui, j'ai travaillé dans les archives de Ivo à New York, à Londres aussi. Il me reste encore Tel Aviv, mais évidemment à Varsovie, j'ai travaillé également pour beaucoup de choses.
Et quant à vous, Sylvie Lindberg ?
Moi, je travaille sur un double projet autour de la justice, projet individuel sur le filmage des procès
en France,
crimes contre l'humanité, depuis l'après-guerre jusqu'à la justice pénale internationale, donc ça ne concerne pas uniquement la France, loin de là, mais le tribunal pénal international pour le Rwanda, donc cette espèce de...
Carla De Ponte, peut-être voilà,
cette espèce de j'utilise ici l'image comme un symptôme pour penser l'évolution de notre rapport à la justice. Et parallèlement, j'ai monté avec de jeunes chercheurs un programme de recherche qui touche à ces questions sur les grands procès dans l'Europe d'après-guerre, avec tout un pan particulièrement développé sur le territoire de l'ex-URSS. Et ces jeunes chercheurs qui sont spécialistes de la Lituanie, de la Russie, rapportent des images de procès à la fois qui commençaient à partir de 1943 sur le territoire du RSS, et puis une deuxième vague des années 60, rapportent ces images, les analysent dans le cadre d'un séminaire que nous avons monté, et déposent ces fonds dans le service audiovisuel de la BNF pour les mettre à la disposition des chercheurs et en assurant même le sous-titrage. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un travail d'analyse immédiate qui débouchera sur un grand colloque, un séminaire préparatoire, et puis cette volonté de faire constituer un corpus, un fonds d'archives qui puisse ensuite être mis à la disposition d'autres chercheurs qui les réinterrogeront dans d'autres cadres avec d'autres problématiques.
Alors, Anja Spanska et Sylvie Lindeberg, là, vous êtes au festival de la 28e édition du Festival du film d'histoire de Pessac, consacré So British à la perfide Albion. Ça vous parle particulièrement, ce sujet ?
Moi, bien évidemment, puisque j'ai vécu 4 ans en Angleterre et je vais me replonger avec délice dans la culture et l'anglais et l'accent.
Pas la gastronomie, hein.
Moins la gastronomie, ce sera moins avec délices. Mais là aussi, ils ont évolué.
On est pas avec la gastronomie, c'est un point totalement
méconnu. Oui, tout à fait méconnu, en effet.
Et moi, c'est vrai que c'est une zone géographique qui m'est moins familière, mais nous venons d'arriver et je vais rattraper mon retard très vite.
Dziękuję bardzo, proszę pani. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si je dois le dire en flamand
en
ou...
suédois.
Oh. Tac, tac, tac. Je ne suis pas sûre. Hein.
Merci à vous deux et bon festival.
Merci.